Nous réalisons donc cet entretien dans le cadre de la clinique juridique de Lyon en partenariat avec la Cour administrative d'appel. Si vous voulez bien commencer par nous donner votre prénom, votre nom ainsi que votre profession pour vous présenter.
Très bien. Donc je m'appelle Michael Boilassa et je suis avocat inscrit au barreau de Lyon depuis 2014.
Quelle est votre formation et votre parcours professionnel ?
Alors ma formation après le bac, j'ai suivi des cours de licence avec option droit public, parcours droit public à l'université Bourgogne. Et ensuite, je suis arrivé sur Lyon, à l'université Lyon 3, où j'ai suivi le master 1. À l'époque, ce n'était pas encore masterisé, donc le master 1 droit public, en matière générale. Et ensuite, j'ai suivi les cours du master de droit public fondamental. Voilà. Ensuite, j'ai passé le concours d'entrée au CRFPA, à l'école des avocats, que j'ai eu en 2011, je crois. Oui, c'est ça, pour une entrée 2012-2013, c'est ça, ça correspond. Et après 2 ans d'école et de stage, différents stages, j'ai prêté serment en décembre 2013, et bien, oui, 9 ans maintenant. Et je me suis inscrit au barreau donc le 2 janvier 2014. J'ai exercé d'abord en tant que collaborateur libéral au sein d'un grand cabinet de droit des affaires. Et je me suis mis à mon compte, c'est-à-dire en tant qu'avocat libéral seul, en 2 janvier 2018. Et j'exerce toujours dans ce cadre.
Pouvez-vous nous dire en quoi du coup consiste la profession d'avocat ? Quelles sont vos tâches principales au quotidien, par exemple ?
Oui, bien sûr. Alors, ça va varier. La question peut varier d'un avocat à l'autre, notamment par rapport à son statut. C'est-à-dire que, comme vous voyez, je suis seul, donc c'est-à-dire que j'effectue l'ensemble des tâches, qui soient du secrétariat, des tâches comptables, qui font un petit peu moins rêver, mais ça reste une structure avec un numéro SIRET, donc ça implique de faire toutes ces tâches. Après, ce qu'on appelle des tâches un peu support. Qui peuvent être exercées par des assistants ou assistantes dans des cabinets de taille plus importante. Sinon, sur le fond, en tant qu'avocat, principalement, moi, c'est de recevoir des clients, de faire le point avec eux sur leurs dossiers, de les conseiller et éventuellement de les défendre devant les différentes juridictions, donc principalement administratives en ce qui me concerne. Donc ça implique la rédaction d'actes, principalement de requêtes, de mémoire en défense, et le suivi des affaires, des recherches juridiques. Ce sont les tâches principales. On a plein d'autres, parce que quand on est avocat, ça implique aussi de les trouver, ces clients. Quelque chose qu'on nous apprend moins à l'université, mais ça fait partie également du métier.
Et quels sont les avantages de cette profession, si vous aviez en donner quelques-uns ?
Alors, les avantages de la profession, moi, je verrais plutôt d'avoir les avantages de mon statut, pas tant de la profession, parce qu'après, on peut, en tant qu'avocat, est-ce qu'il y a réellement des avantages ? L'avocat n'est plus notable comme ça a été il y a de nombreuses années, surtout dans des gros barreaux comme le barreau de Lyon, où on atteint les 3000 ou 3500 avocats, je crois, il me semble. On doit être à peu près à ça. Donc, plutôt les avantages du statut, c'est-à-dire qu'en tant que collaborateur libéral, on a une vraie liberté d'action, une liberté de parole aussi, bien sûr dans le respect des différentes règles, mais c'est cette liberté que je mettrais vraiment en avant. Enfin, c'est vraiment l'avantage principal en ce qui me concerne.
Votre profession, du coup, elle est comme vous l'aviez imaginé lors de vos études, ou quand vous avez décidé de passer le CRFPA, vous avez imaginé avoir cette profession et donc ce type de dossier, de responsabilité et tout ce qui va avec, du coup ou...
Non, absolument pas.
Non,
absolument pas, parce qu'il y a quand même un gouffre entre la vie universitaire et la vie professionnelle qui tend à être un petit peu pallié par les différents stages qu'on fait. Au fur et à mesure des stages, on va se rendre compte un peu plus de la réalité de cette activité, notamment la réalité économique qui est un élément important, surtout pour une structure comme la mienne. Après, oui, je ne tombe pas des nues non plus, c'est ce vers quoi je tendais, mais... au hasard des rencontres, des clients qu'on va avoir, des dossiers qu'on peut avoir, on va plus ou moins s'orienter dans telle ou telle branche et on a assez peu de visibilité sur ces derniers points au moment de ces études. Après aussi, on peut faire ses choix de carrière, rester dans un cabinet en tant que collaborateur, développer tel ou tel domaine du droit administratif en tout cas, qui peut nous intéresser. Mais voilà, parfois entre ce qu'on souhaite et ce qui va se passer réellement, il peut y avoir une petite différence. Ce qui est assez sympathique d'ailleurs, pas une mauvaise chose.
Et du coup, qu'est-ce qui vous motive dans l'exercice de votre métier? Est-ce que l'on peut dire que ça vous passionne, en fait, d'être avocat, ou ça vous satisfait plus ou moins?
Oui, alors c'est un métier passionnant. C'est un métier qui est effectivement passionnant. Bon, je ne vous cache pas que parfois, on a un peu des désillusions quand on reçoit des décisions qui peuvent être négatives, ou quand on va avoir des situations qui sont très complexes, des gens qui sont dans une extrême précarité, ça atteint un peu le moral et forcément bah, la passion en prend un petit peu un coup. Après, voilà, les droits de la défense, c'est ce qui me passionne avant tout, c'est-à-dire les droits de la défense au sens large, pas au sens du droit pénal. En tant que publiciste, je défends quasi exclusivement des requérants particuliers qui ont des litiges contre l'administration. Et souvent, en tout cas, quand ils viennent me voir, ils ont un peu l'impression que ça va être le pot de fer contre le pot de terre. Et bien sûr, vous savez de quel côté on est. Et donc voilà, c'est ça, c'est un défi un peu de tous les jours. Mais c'est pas toujours simple, effectivement, de maintenir cette flamme de cette passion chaque jour.
Et selon vous, quelles qualités est-ce qu'il faut pour être un bon avocat publiciste?
Alors, pour être un bon avocat en général, je dirais même, parce que être un bon avocat publiciste, je ne sais pas si ça va changer par rapport aux autres, mais en tout cas, la rigueur, c'est une des qualités, je pense, principales. C'est vrai que pour les avocats publicistes, on a des délais qui sont très courts, de 2 mois, ce qui pour d'autres domaines, c'est extrêmement court, des délais qui vont aller aussi à 15 jours, 48 heures, donc une rigueur dans le suivi des dossiers. Et après, être avant tout un bon juriste, je pense que c'est les qualités qui sont principales.
Et comment échangez-vous du coup avec les autres professionnels du droit?
Alors, c'est vrai que c'est assez vaste. Dans mon domaine, finalement, j'ai assez peu de contact parfois avec les autres professionnels du droit. En droit administratif, en droit public, souvent on peut avoir des contacts avec les huissiers, des administrateurs, c'est des contacts qui peuvent être, mais plutôt dans des dossiers en dehors du droit, enfin on va dire en droit civil, plutôt en droit privé pour faire large. Sinon, avec les magistrats devant les juridictions administratives, les contacts sont très restreints, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de contacts entre les avocats et les magistrats. Après, on a toujours l'occasion et la chance de les croiser dans des colloques. Voilà, ça reste toujours très professionnel.
Et vous n'avez pas l'habitude de... Enfin, par exemple, sur des questions données, où vous allez avoir une problématique qui va être plus privatiste, qui peut se mélanger avec une problématique publiciste, du coup, vous n'allez pas du coup avoir besoin peut-être de solliciter un avocat qui aurait une spécialité autre que la vôtre et qui serait peut-être plus à même de vous aiguiller sur...
Oui, effectivement, bonne question. C'est vrai qu'on est avocat avant tout. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'après, on a un principe de... avec les nombreux principes déontologiques, un principe de compétence. C'est-à-dire que quand on prend un dossier, on se considère compétent pour le traiter. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exclusivement des dossiers qui sont dans notre domaine d'activité principale et liés à notre formation, mais ce devoir de compétence, parce que derrière, il y a un risque d'engagement de la responsabilité, dans ce devoir de compétence, ça implique nécessairement de pouvoir traiter le dossier, d'être en mesure de bien le traiter au mieux et de l'emmener... de l'emmener au bout. Mais effectivement, régulièrement, alors soit quand justement on excède ce principe de compétence où on pense que ça va être limite, donc bah, on renvoie directement le dossier à un confrère, qui peut être un ami également, enfin, ou une personne avec qui on a traité, on lui renvoie le dossier, on lui fait toute confiance pour le traiter. Ou alors on peut simplement, sur un point donné, effectivement, c'est un peu l'appel à un ami, c'est-à-dire lui demander des conseils, parce que c'est pas... on n'est pas sûr de la procédure, ou on n'est pas sûr du déroulement, puisque c'est pas une juridiction qui nous est familière. Voilà, on peut demander des conseils. En ce sens, oui, effectivement.
Et quelles sont, du coup, vos relations avec les justiciables et les étudiants, de façon générale? Je sais, du coup, que vous dispensez des cours à Lyon 3, dans le cadre du contentieux des personnes publiques. Est-ce que vous avez d'autres activités parallèles comme celle-ci?
Effectivement, alors déjà par rapport aux étudiants, il y a ces cours au sein du DU. J'ai eu la chance d'être invité à faire plusieurs interventions par le professeur Caroline Chamard, et je le remercie d'ailleurs. Je dispense également des travaux dirigés en master 1 en contentieux administratif et parfois même, ça dépend des années, en licence en droit de la fonction publique. Alors, c'est quelque chose que j'apprécie. Quand on est avocat et qu'on dispense des travaux dirigés, c'est pas des raisons financières qui motivent ce choix, c'est plutôt le fait de rester en lien avec l'université, de rester en lien avec les étudiants qui à chaque TD d'ailleurs, qui à chaque TD d'ailleurs souvent remettre en cause les certitudes qu'on a. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de pas se limiter à ses acquis. Après, avec les justiciables, j'ai, comme je vous l'ai indiqué, une clientèle principalement de particuliers, et notamment au sein de cette clientèle de particuliers, beaucoup d'étrangers qui sont en situation irrégulière, qui est un gros pan de mon activité. Donc c'est des liens qui sont toujours très, très bons, j'allais dire, mais qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'en fait, en face, on a des personnes qui sont dans des précarités absolues, parfois sans toit, quasiment systématiquement sans travail, avec des enfants, enfin c'est des situations vraiment précaires, donc c'est assez éprouvant, on va dire, moralement, mais néanmoins les contacts sont toujours bons et on essaie de faire au mieux pour répondre à leurs besoins.
Vous nous avez parlé de vous dans votre évolution dans la profession d'avocat, du statut d'avocat collaborateur. Maintenant que vous êtes à votre compte, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus globalement des évolutions possibles dans la profession d'avocat ?
Oui, alors effectivement, j'ai énormément de confrères qui ont fait l'école d'avocat avec moi, qui ont prêté serment et qui ont commencé une carrière en tant qu'avocat, qui derrière ont changé de parcours, de carrière, puisque certains sont devenus, alors en tant que publicistes principalement, de ce que je connais, il y en a beaucoup qui sont devenus juristes au sein de collectivités, d'assurances, ou même au sein de l'État, qui sont devenus fonctionnaires. Après, je crois qu'il y a également des passerelles. Alors ça, c'est je connais un peu moins, puisque en fait, je sais qu'il y a des passerelles pour d'autres métiers du droit, notamment comme la magistrature, qui existent, qui impliquent de repasser des concours, de rentrer à l'école. Mais voilà, ces passerelles existent. Après, il y a beaucoup d'avocats qui un jour arrêtent la profession et deviennent juristes, peut-être pour plus de stabilité ou de sécurité. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
Et vous, c'est pas du tout quelque chose que vous envisagez à long terme ?
Presque chaque jour, en fait. Non, comme je disais, parfois c'est un peu éprouvant, puisqu'en fait, on se bat systématiquement et on a des personnes qui. Enfin, l'intégralité des personnes qui viennent nous voir sont en difficulté, sont des problèmes. Elles viennent pas pour faire la fête avec un grand sourire. Donc, c'est. Parfois, c'est pas simple, et oui, effectivement, on remet en question sa capacité à bien les défendre, sa capacité à donner le meilleur de soi-même pour pouvoir les défendre correctement. Donc oui, si, régulièrement, mais je pense que je suis pas le seul, tout le monde se remet en question. Après, je suis toujours là et je continue de me battre pour mes clients.
Et du coup, vu que vous faites déjà des interventions auprès des étudiants, devenir maître de conférence, non, c'est pas quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser dans l'avenir ou...
Je vous avoue que je n'avais jamais pensé à cette question. Donc la réponse est assez difficile. Après, je crois que c'est assez compliqué finalement. Et en tant que maître de conférence, je pense qu'on a moins de liens et de contacts avec les étudiants. Le contact est beaucoup moins direct que dans les travaux dirigés. Après, financièrement, c'est effectivement plus intéressant. mais néanmoins, ce que j'aime, c'est ce contact avec les étudiants, le contact direct. La plupart des étudiants que j'ai, ils ont mon adresse mail, ils m'écrivent des mails dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils ne connaissent pas le cours. J'ai souvent des anciens étudiants qui sont devenus des confrères d'ailleurs, qui demandent du conseil sur une procédure ou sur un parcours universitaire à suivre ou un concours à passer. Et c'est ça que j'apprécie réellement, c'est ce contact direct avec les étudiants.
Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils aux étudiants qui veulent suivre la même voie que vous ?
Oui, j'en ai plein. J'en ai plein et on sera effectivement limité par le temps. Mais non, le principal conseil, c'est si réellement c'est ce qu'ils veulent faire. Le concours d'entrée au, au CRFPA, à l'École des avocats, est un concours qui devient, je pense, de plus en plus complexe avec le nombre de participants. Après, il y a plusieurs. Il y a plusieurs tentatives pour le passer. Je dirais mon conseil principal, c'est de persévérer. Si c'est réellement ce qu'ils veulent faire, que ça ne fonctionne pas la première fois, et ben faut se relancer dedans. Je sais que parfois c'est compliqué financièrement, parce qu'une année d'études, c'est pas une année sabbatique, mais non, moi ça coûte très cher. Donc voilà, mais persévérer, parce que parfois, souvent, ça paye. Pas se laisser décourager par un échec.